Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
E va bene lo so, oh, oh. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina.
Ma tu non piangere, non si.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9.30 è Michele Goti con i suoi invitati.
Ciao Michelino,
sì,
come sta?
Ciao, là là, ici c'est de la folie.
Il y a plein de monde aujourd'hui.
Ah, vous devriez venir ici parce que alors là, si vous vous ennuyez...
Bah là,
ici,
au moins, on se tient chaud.
Ah bah là,
dehors, il fait froid, mais ici, il fait chaud.
Une dizaine, on salue tout le monde et on salue surtout Pietro qui est venu nous faire un coucou, c'était pas prévu. Et on le salue, on l'embrasse très fort, Pietro, en pleine forme, avec sa canne vert, blanc, rouge.
Hein,
toujours
ah ouais,
en forme.
On peut pas. Hein.
Bati, Pietro, on discutera avec toi dans quelques minutes. Alors, bonjour les sportifs de Cappuccino, amoureux des JO de Cortina qui se déroulent dans des conditions fantastiques pour l'Italie. On fera le point dans quelques minutes, mais nos invités ce matin sont eux aussi fantastici. D'abord, Guglielmo Colosimo, un enfant de Calabre devenu grand, et nos amis, le président du cercle Leonardo da Vinci, Jean-Raphaël Sessa, et son couteau suisse, Valérie Massé. Exceptionnellement, elle vous dira pourquoi. Exceptionnellement, nous décalons la rubrique de Stéphane Floccari à la semaine prochaine. Allez, de suite, place à la musica avec Lucio Corsi, la révélation du Sanremo 2025, qui est en concert cet après-midi à l'Élysée-Montmartre à 18h30. On l'écoute avec son succès de Sanremo, Volevo essere un duro.
Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo. Alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro. Ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo. Così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo. È lui che mi ha lasciato indietro. È un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro di sputo. Lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, però non sono nessuno. Cintura bianca di giudo, invece che una stella uno star muto. I girasoli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce, e che le lune senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Vivere la vita è un gioco da ragazzi. Io
sono altro che l'uso.
Ouh là là, que de monde, on est content. On salue Mario, on salue notre technicien, on salue Pietro, Valérie, Jean-Raphaël SS, Giulio, il più piccino di tutto. C'è uno che è abbastanza piuttosto vecchiotto, che sarebbe il Pietro più di 94 anni, e Giulio che avrà quanti anni? 5 anni. Ah, tu vois la différence? Alors, on salue Thomas qui nous écoute. C'est un Français amoureux de l'Italie. Ciao, tiens. Thomas, c'est peut-être pour toi cette annonce. La Spapi qui, justement, propose une soirée dansante le 14 mars à partir de 20h30 au parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne avec le duo italien Ambra et Elia. Boisson offerte. C'est bien. Alors venez célébrer l'amitié franco-italienne à partir de 20h30 à la salle polyvalente du parc du Tremblay, 161 boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne. Pour plus d'informations, vous téléphonez au 07 67 01 58 97 07 67 01 58 97. Une autre aussi annonce qui va faire plaisir, tiens, sûrement Jean-Raphaël SS, je suis sûr qu'il adore Dalida. Florence Solari propose un spectacle Gigi, Dalida et moi, spectacle musical sur la vie de Dalida au théâtre Mélo d'Amélie qui se trouve au métro Châtelet. C'est le jeudi et le dimanche à 16h30. Donc si vous êtes intéressé, c'est au 01 40 26 11 11 qu'il faut téléphoner. Notre invité Guglielmo Colosimo nous a préparé les chansons qu'il aimait. Et là, il nous a dit oh, j'aimerais bien faire un hommage à Pepino Di Capo parce que c'est son papa, je crois, qui aimait ça. Alors, on va écouter la chanson et on reparlera avec toi de toutes ces choses-là. Pepino Di Capo, Nasera e Maggio.
Guardo mare, guardo il fronda. Se ti parlo non rispondo, stai distratto come che. Io ti tengo vinto cuore, sono sempre innamorato. Ma tu invece pensa nada e te stai scordando di me. Quando si dice sì, viene la mente. Non sa da favori, non gora mai. Nascere maggio e non ti hanno coraggio e malassà. Una mano dopo cuore non si scorda prima amore, ma tu stai scudando me. Quando si dice sì, viene la mente. Da favori non ancora mai
êtes à l'écoute de Cappuccino. Alors, ce qu'on va faire juste avant de commencer à parler de ton parcours, il y avait un petit extrait que je voulais passer, c'est par rapport aux JO. Je ne sais pas si tu suis les JO.
Je suis un peu sur tous les médaillés italiens.
Évidemment. Donc actuellement, ça marche très fort, hein, puisqu'il y a 6 médailles d'or, 3 d'argent et 9 de bronze, ce qui fait qu'au total, on en a 18. Et qu'au début, on avait dit, ça serait bien si on en avait 19. Donc déjà, à la fin de la première semaine, on en a 18. Donc, on espère qu'on en aura peut-être 22, 23, enfin, même plus, hein, qui sait. Donc, ça marche très fort. Et là, pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance de Cortina, je vous propose d'écouter les commentaires en direct de la victoire des Italiens en double luge, après celle obtenue par les femmes. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ont gagné le double luge. Écoutez dans la cabine de Régis ce que ça donnait.
È lunga la strada, è allungata la strada
anche
per loro.
Qua, ingresso difficile.
È allungata la strada, sono obbligati a fare perfetta la Tofana.
La fanno sulla destra, vanno un po' a sinistra, attraversano, doppia onda qua.
La prendiamo!
Un millesimo!
La prendiamo!
Un millesimo!
La prendiamo!
Vanno
la
dietro,
prendiamo!
Vanno dietro!
La prendiamo!
Doppia onda! Rider Kite Waldner, spettacolo!
Fantastico!
Spettacolo a Cortina!
Fantastico!
Doppio oro per lo slittino!
Voilà, c'était sympa de se remettre un peu dans cette ambiance. Alors, merci Guglielmo Colosimo d'être avec nous. Et puis également Jean-Raphaël SS et Valérie Massé qui sont là pour une mission un peu spéciale, un peu particulière pour te faire découvrir parce qu'en fait, on te connaît, mais sans te connaître tout à fait, puisque tu as vu pour la première fois, nous, beaucoup vraiment, c'était à Rungis avec l'inauguration de ta grande une boutique. Non, c'est
une
pas
belle
une...
inauguration, oui.
C'est un espace.
un espace de vente, en gros.
Alors, c'est sympa de savoir d'où tu viens, parce que là, on sait maintenant que tu as réussi, on peut dire, dans la vie. Toute ta famille est impliquée dans la gestion des délices d'Italie. Je crois qu'il y a 19 personnes qui travaillent pour toi. Donc, c'est pas rien. Donc, du coup, voilà, tu es Calabrais. Enfin, tes parents sont émigrés de Calabre. Explique-nous un petit peu. Ils sont venus en 56 et en 59.
Très bien. Alors, merci. Bonjour à tous. Hein. Merci déjà de m'avoir invité. Bon, vous l'avez dit, je suis peut-être connu. Mais à partir d'aujourd'hui, je crois que je vais être reconnu avec vous. Bref, voilà. Oui, donc, j'ai... Le tracé, c'est que mes parents, enfin mon père déjà est arrivé en France, donc je suis fils d'immigrés calabrais. Donc mon père a immigré en 56, dans un premier temps. Après, ma mère l'a rejoint en 59, Teresa, donc Angelo et Teresa. Et donc l'aventure a commencé pour eux.
Ça a commencé d'une manière un peu compliquée.
Un peu compliquée.
Parce
que,
en fait, on en a parlé un peu en dehors. Mmh. Tes parents se sont installés dans des baraques à Ivry-sur-Seine.
Oui, comme beaucoup d'immigrés italiens. Ils ont immigré à Ivry-sur-Seine dans les baraques qu'on appelait.
Qu'est-ce que c'est les baraques ?
Les baraques, c'est ni plus ni moins, c'était des, on va pas dire des chalets en bois, mais c'était un peu des monolocales, comme on appelle, avec une seule chambre. Il y avait quand même 2, 3, 4, 5 personnes dedans, qui habitaient dedans. Hein. Donc c'était précaire. Hein. Mais très vite, il a eu la chance de trouver une chef d'entreprise. Je ne me rappelle plus de son nom, mais une très belle personne, a priori, mon père m'expliquait, qui l'a embauché.
Comme grutier,
ouais, c'est en ça. 2 ans. Donc, sur Ivry-sur-Seine, toujours. Et donc là, il a eu tout de suite un petit logement. Et puis, en attendant sa femme, donc il a commencé à travailler en tant que grutier. Après, 2 ans après, il s'est mis à son compte sur les marchés.
Sur les marchés, on en parlera après.
Sans ambulance, les marchés.
Est-ce que tu sais pourquoi ils sont partis de Calabre?
Je pense que c'est pour tous la même raison, hein. Ouais. Pas de travail. Hein.
C'était
pas
ça.
De travail. À l'époque, il y avait sur toutes les mairies des villages, il y avait quand même des demandes d'embauche en Allemagne, en Italie, en France, enfin, tout pays cherchait de la main-d'œuvre déjà dans ces années-là, après-guerre. Après, si vous voulez, ils ont. Il a surtout ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu mettre un peu déjà commencer à se mettre à l'abri ici avant de faire venir ma mère.
C'est comme ça que ça fonctionnait beaucoup.
Ça fonctionnait beaucoup comme ça.
Effectivement. Oui. Donc, les parents venaient, le père ou un oncle ou un frère venait
toujours.
Avant. Il regardait comment ça se passait et on faisait venir après.
C'est lui qui a ouvert le bal parce que c'est lui qui est venu avant.
Les femmes, oui.
C'est mon père qui est venu avant. Et puis après, il y a toute une fratrie. Il y a des neveux, des nièces du côté de ma mère ou de mon père qui ont suivi. Et puis mon père étant l'aîné d'immigrés, on va dire, l'aîné qui est venu un des premiers en France. Et ça n'a pas été facile aussi puisque je vous expliquais aussi en interne, qu'il y avait aussi des critères aussi de santé. On passait pas, quand on recrutait, on passait pas la frontière si facilement que ça. Hein. On n'allait pas. Mon père, avant de venir, il a fallu qu'il passe, bien sûr, pas mal d'analyses, tout ça, pour qu'il passe la frontière, des visites médicales, pour qu'il soit apte au
travail,
à la vie sur le territoire français, quoi.
Ouais,
donc
ouais.
C'était important, hein, parce que ça, sinon, moi, j'ai vu refouler. Enfin, j'ai vu. Mon père m'expliquait. Que son frère, notamment, a essayé de venir deux reprises en France et ils l'ont refoulé. Il n'avait pas le poids. C'était tout.
Ah, ouais, mais bon, ça rigolait pas.
C'était,
il y avait un poids minimum.
Plus de maladie,
bien que ça.
Ouais, et pour le poids. Hein. Il était trop faible. Quoi.
C'est pour ça que tu t'es mis dans la nourriture après.
Non, pas, j'ai dit, bon, là, ça va plus. Là, il faut prendre des forces.
On va prendre des forces. Alors, les chansons, c'est toi qui les as choisies. Oui. Donc, on a entendu Pepino Di Capri.
Oui.
Et là, tu nous proposes Patti Bravo, parce que tu aimes bien. Il Paradiso. Donc, finalement, peut-être, entre guillemets, la France, c'était un peu Il Paradiso
le paradis,
pour tes parents.
Oui.
Et c'est toi qui l'as choisi. Et c'est, on rappelle que Patti Bravo sera au Sanremo de cette année, de 2026.
Patti Bravo, oui. Mais pas toute jeune, Patti Bravo, aujourd'hui.
Oui, je sais pas parce que comme
elle est toujours là, quoi. Toujours dans la course.
Maquillée à l'extrême, on sait pas vraiment son âge.
Ce sont des chanteurs, parmi tant d'autres, parce qu'on a un répertoire italien qui est mondialement connu et reconnu. Hein. Donc j'ai choisi ces quelques chansons, la première de Pepino Di Capri, parce que mon père était un Calabrais, mais il écoutait beaucoup de chansons napolitaines. Donc il nous a bercé, on va dire, avec ces chansons-là, quoi.
Patti Bravo, il paradis.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
sympa la Patti Bravo qui sera donc au Sanremo, 2026. Alors on continue avec Guglielmo qui nous parle de la venue de ses parents de Calabre ici dans des conditions difficiles. Et alors tes parents ont eu 6 enfants?
Oui, 6 enfants. Oui. Je suis le dernier de la fratrie de 6 enfants. Donc voilà, je ne vais pas tous les nommer, mais il y en a 6, oui. Donc je suis le dernier de la famille.
Ouais. Donc, alors pourquoi tes parents ils se sont mis à vendre des chaussures? Parce que vous avez été sur les marchés, vous auriez pu vendre autre chose. Pourquoi les chaussures?
Bah écoutez, pourquoi? Très bonne question. Bon, il est venu. De toute façon, mon père ici était présent aussi sur l'Adriatique, donc sur l'Italie aussi, puisque je pense que là, il y avait toute l'Italie déjà à l'époque. Hein, c'était la Calzatura. Donc, je pense que c'est ça qui a fait qui a eu le déclic. Hein. Donc,
quelle année à peu près?
Oh ben en 59, hein, 56, 57, 59, oui. Ouais. 59, il a commencé les marchés, faire les marchés. Il a commencé la chaussure, bon, et puis c'est parti avec la chaussure. Hein. Il a fait avec ma mère.
Il les faisait venir d'où alors ces chaussures?
Bah, d'Italie, la plupart, puis même de France, hein, parce qu'on avait dans le Cholet, dans le Maine-et-Loire, il y avait des manufactures assez importantes à l'époque. Franco-italienne. En Italie, c'était plutôt sur la côte adriatique, Bari, on avait Bari et la Puglia, quoi, qu'on appelait la Piccola America. Hein. La Puglia, c'était quand même connu, hein, mondialement connu, parce que il y avait des kilomètres et des kilomètres d'usines, hein, pas seulement de chaussures, hein, de tout. Hein,
c'est vrai, hein, les chaussures italiennes étaient reconnues.
Les marques, et après, bon, après, toute la qualité, il y avait les marques, il y avait de Vigevano, insomma, dans l'Italie, il y avait pas mal d'usines de chaussures quand même. Ouais.
Pourquoi ils n'ont pas pris une boutique de chaussures? C'est plus simple, non?
Non, je pense que l'école, moi je le dis maintenant, mais je pense que l'école de la vie, c'est le marché. Commencer à apprendre à parler la langue et tout, je pense que ça y fait aussi. Je pense qu'il a, eu le contact direct avec les publics de toute catégorie de clientèle. Et puis, donc il a, je pense que c'est c'est ce que moi je ressens en faisant aussi les marchés, puisque j'y suis dedans, c'est que c'est vraiment l'école de la vie. Et là, vous avez contact avec tout univers, toute personne, et ça c'est magnifique. Et c'est quand je dis que c'est l'école de la vie, c'est ça qui a permis de monter, quoi. Donc mon père, je pense que c'était, il est venu, il parlait pas tellement bien la langue. Écoutez, il s'est mis sur les marchés. Il a commencé par les marchés de Villejuif, les marchés, surtout Villejuif, parce qu'il avait les deux séries de marchés de Villejuif. Et puis avec ma mère qui lui donnait un coup de main. Hein. Il n'y avait pas de salarié à l'époque, c'était tous les deux. Il fallait qu'il s'occupe, la maman qui s'occupe non seulement de la maison, mais tout en place.
Et 6 enfants.
Mais tout en place.
En plus.
C'était, comme je dis moi aujourd'hui.
C'était des journées de 16 heures par jour.
Comme je dis, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que c'est un investissement, 6 enfants. Hein. Donc leur premier investissement, c'était d'élever... Ah oui, c'était d'élever 6 enfants. Donc, et chapeau, parce que bon, aujourd'hui.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio, avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io.
avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai a modo mio. Quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Toi, t'as été bercé dans ça, et ben du coup, tu te dis, bah, puisque eux, ils vendent des chaussures, bah, moi, je vais vendre des chaussures
ah
aussi.
Bah, ouais, hein, c'est pas, je pense que
c'est un peu ça aussi.
Fils de commerçant, c'est pas tout à fait comme ça qu'on le voit, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que quand on voit un peu, bon, bien sûr, on a un parcours, on va à l'école, bon, pas de problème, mais quand on voit un peu les parents galérer, hein, parce que 6 enfants, vous l'avez dit, nous, on a vu nos parents galérer. Investir, donc 6 enfants, commencer à investir dans leur première maison pour avoir le confort pour les enfants, investir, parce que c'est un investissement, de pouvoir partir en vacances tous les ans, tout ça, puis ça, puis ça. Je pense que là, oui, c'est plus qu'un sacrifice pour eux. Et ils ont pas failli à leur devoir de parents dès le
ils ont, dès, ils ont leur arrivée, pour dès leurs
leur,
enfants.
Dès leur arrivée de leurs enfants, quoi. Ouais. Donc, oui.
Mais ce qui est incroyable, c'est que toi, tu as pris le relais. Et toi, du coup, tu as fait la même chose, c'est-à-dire que tu as ouvert le Délice d'Italie, tu as beaucoup d'activités que tu as aussi redonné à tes enfants le goût de faire ça, et eux suivent maintenant aussi la même chose que toi, finalement.
Ouais, à savoir que nous six, on est impliqués, hein. Il n'y a pas que moi, il y a mes frères et sœurs. Hein. Moi, j'étais le dernier à la fratrie.
Ah ouais,
mais
c'est toute la fratrie.
Ah bah oui, là, c'est le week-end, on n'avait pas le choix. Hein. marche ou crève, hein, il faut y aller. Hein. Donc, vous savez... À l'âge de 14 ans, j'aurais peut-être pas pu le dire, mais on partait avec les camions sans permis de conduire pour aller sur les marchés. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si c'est trop tard.
Changé, je crois.
Donc ça a un peu changé tout ça. Donc effectivement, tous les frères et sœurs, hein, les plus grands allaient sur un marché. Déjà, on était déjà responsables à 14 ans. Donc on n'avait pas le choix. Donc on était
mûrs très vite, hein, avec cette vie-là.
Mais parce que avant avec les parents on se comprenait au doigt et à l'œil, donc il y avait pas de trop de et puis il fallait de toute façon on comprenait aussi la galère, quoi. Donc il fallait pas la misère, hein, la galère. Donc il fallait vraiment affronter au jour le jour, et puis de toute façon on n'avait pas le choix. Donc mon père avec mon père, c'était pas le il y avait pas de matière, il y avait pas de sujet, il fallait y aller, quoi. Donc mais après très très belle. Donc moi j'ai continué, mes frères et sœurs plus ou moins arrêtés. Et puis après, avec...
Toi, tu as commencé par la chaussure, mais tu t'es diversifié. La chaussure, tu l'as laissée après, tu as ouvert ça... le Délice d'Italie, c'est de 2009. Donc là, tu t'es mis plutôt sur les produits italiens. Voilà. On va en parler après une pause musicale.
D'accord.
Après, encore un chanteur que tu as choisi, c'est Lucio Battisti, Pensieri e Parole.
Bah. Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre e Fenda.
Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio,
sola, sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio,
che ne sai di un ragazzo
è roccia
bene,
ormai,
che mostrava tutte quante le sue sfide,
sfida il tempo e si cepento e tu lo sai,
virginità.
Sì,
che
tu lo sai,
sai
davanti a me. Conosci me,
che ne sai di un viaggio in
quel
terra,
che darei,
che ne sai di un amore senza
perché
vita,
negli altri ritrovassi
che mi
hanno
detto bugiarda finita,
che ne sai di un ragazzo che ti amava.
Alors, nous sommes avec Guglielmo Colosimo, qui est le gérant de Delice d'Italie. Nous sommes avec Valérie Massé, le couteau suisse, finalement, du président qui est là aussi, Jean-Raphaël Essès, pour nous parler des amis, d'aussi ce que vous avez fait depuis quelques années. On en reviendra, on parlait tout à l'heure, le monument extraordinaire qu'il y a à Nogent-sur-Marne. Alors, on va juste revenir à toi, Colosimo. Donc, tu décides finalement d'aller dans les produits italiens. Pourquoi tu sais, là, il y a un filon à prendre, non?
Non, parce que j'étais trop maigre. Alors j'ai
dit, on l'a dit tout à l'heure.
J'étais pelle et os. Donc j'étais. Non, je rigole. Bon, j'ai perdu ma mère, moi, en 89. Donc j'ai perdu ma mère un peu jeune, très jeune. J'avais 22 ans, 23 ans. Et puis les années passées, comme ça, j'étais toujours dans la chaussure. Et j'ai dit, merde, je ne retrouve pas le goût, je retrouve pas je retrouve pas la bouffe calabraise, surtout parce que ma mère cuisinait beaucoup calabraise, quoi. Donc c'était la mama, hein, dans toute sa splendeur. Et puis ces moments de partage qu'on a eu, qu'on a connu avec nos parents, toute la famille, tout ça nous manquait, vérité. Et puis on peut dire ce qu'on veut, mais tout est à travers la
table,
quoi, je veux dire la table. Donc les réunions, on se réunissait tout le temps. On n'était pas moins, même si on était 6 enfants, plus nos parents, ça faisait 8, mais on n'était pas moins de 20 personnes à table, midi et soir, enfin midi après les travaux, quoi. Mais le soir surtout, on ne loupait pas, puisque mes parents étaient les aînés donc d'immigrés, là. On ne loupait pas les fêtes, les Pâques, les Noëls, tous les jours fériés. Donc c'était vraiment une embellie, quoi.
Ce qui est étonnant, c'est que tu changes finalement d'orientation
voilà.
par rapport au fait que tu faisais des grands repas avec ta famille et que le cibo était très très important. Et tu t'es dit, moi je veux aller dans cette convivialité finalement de vendre des choses qui vont faire plaisir aux gens.
Exactement, bon. Ça, la convivialité, la générosité, ça vient tout du respect de nos parents déjà. Donc ça, je l'ai pas, ça ne s'invente pas, ça ne s'apprend pas. Ça, mais effectivement, le partage qu'avaient nos parents, que donnaient nos parents, là, automatiquement, même que ce soit moi ou mes frères et sœurs, c'était pareil, quoi. On a continué. Donc c'est ce manque du goût. Et puis de toute façon, j'étais souvent en déplacement, puisque dans la chaussure, moi, je m'occupais que d'Italie. Donc déjà, avec la chaussure, j'étais souvent en Italie. Vous comprenez bien que les fournisseurs, quand ils vous invitaient dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, enfin, dans toute l'Italie, c'est... Voilà, pour la gastronomie, je pense que... Voilà,
tu t'es dit, il y a quelque chose à faire.
Oui, il y a quelque chose à faire. Donc là, je ne savais pas où j'allais. Donc j'ai quand même gardé en parallèle mon activité de chaussure pendant un an. Donc j'ai commencé, et puis j'ai commencé assez fort, puisque j'ai commencé à créer les délices d'Italie, toujours sur les marchés. Puis après, petit à petit, j'ai pu monter 14 familles, permettre à 14 familles de se monter sans les avoir franchisées. Ils sont libres.
Il y a 14 personnes qui vendent des produits sur les marchés. Lancé, oui.
14 personnes ou 14 marchés
ouais. 14 personnes qui font chacun deux marchés par semaine, oui.
Ah oui.
Alors, c'est-à-dire que quand je dis 14 familles,
28 marchés, alors.
Oui, largement, c'est peut-être on peut compter un peu plus aujourd'hui, mais pas que, et après, on a un peu... Donc, la première chose, c'est que quand j'ai compris que ça commençait à fructifier, ça commençait à prendre, j'ai dit, bon, bah, je vais faire une cuisine, j'avais un petit studio là où j'habite, à Limeil, depuis 45 ans, j'avais un petit studio, je le louais, je dis, bon, allez, le locataire m'avait donné sa résiliation, donc il a résilié le contrat, je dis, bah, ce qu'on va faire, on va faire une petite cuisine. Donc, j'ai commencé avec 35 mètres carrés, une petite cuisine. Et après, j'ai fait venir c'était pas des chefs étoilés, mais j'avais besoin de faire venir des Calabrais. Donc, un couple de Calabrais est venu dans un premier temps, que j'ai déniché là-bas en Calabre. J'ai fait venir en France, je les ai logés. Enfin, voilà, on a, comme ont fait nos parents, en fin de compte, il y a 70 ans, quoi.
70 ans après.
Ouais. Donc, tout ça, ça a pris un peu d'ampleur. Puis après, 35 mètres carrés ne suffisaient pas. J'ai poussé les murs et puis j'en suis à 400 mètres carrés. Fait une cuisine qui m'a valu la reconnaissance, puisque c'est ça qui, en fin de compte, j'ai mis alors, du temps hein, avant d'élaborer des plats. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Quand vous élaborez vos propres plats, il faut 5, 6, 7 ans, hein, facile. Et encore, on en apprend tous les jours. Ouais. Et donc, j'ai commencé avec des recettes de ma mère, petit à petit. Puis après, les uns les autres, maintenant, on a 11, 12 personnes en cuisine. Donc, voilà. Donc, ça a fait notre carte de visite, en fin de compte, parce que vendre des produits italiens, c'est bien. Mais j'ai tout de suite compris, de toute façon, qu'il fallait que je me mette dans l'excellence, dans la nourriture d'excellence italienne. On n'avait pas trop de mal, puisqu'en général, on a de la très très bonne bouffe. Mais bon, là, j'ai compris qu'il fallait mettre dans l'excellence. Donc, j'ai mis les moyens pour. Parce que j'ai tout de suite, si vous voulez, accéléré le processus. Donc, j'ai arrêté la chaussure au bout d'un an. Et je me suis vraiment consacré à ça à 300%. Donc, avec l'aide de... Au début, j'ai embauché un couple. Puis après, il y en a plusieurs qui sont venus.
Voilà. Et juste pour en revenir aussi, là, deux mots sur ce que tu viens d'ouvrir à Rungis, ce grand magasin de produits italiens.
Alors ça, c'est un peu mon fils là, qui m'a mis un coup de pied au cul. Là, en plus, j'ai pas besoin. Je voulais pas arrêter parce que je peux pas arrêter, vous savez. Hein. En France, vous avez un crédit à vie. Hein. Donc... Si un commerçant me dit qu'il se met à la retraite, il faut qu'il me donne la recette, parce qu'encore, je n'ai pas compris. Hein. Donc c'est que mon fils a dit « Ouais, bon, papa, ça serait bien. » Puis on avait l'opportunité, c'est-à-dire que sur Rungis, il y avait déjà un produit espagnol, un peu d'italien, qui battait de l'aile, quoi, qui allait très très mal. Donc on a repris cet entrepôt, enfin cette boutique, on va dire, puisqu'on a rendu un dépôt de produits alimentaires en boutique d'excellence. C'est-à-dire que j'essaie d'amener mon savoir-faire, puisque oui, effectivement, on s'est installé depuis peu. On a fait l'inauguration au mois de septembre à Rungis. Mais sur Rungis, je ne veux pas que la clientèle soit un numéro. Je veux que la clientèle s'y trouve bien, comme nous sur nos marchés, qu'il y ait une convivialité, oui, que ça se passe vraiment comme si c'était sur le marché, qu'on puisse converser, qu'on puisse prendre le temps de s'occuper de nos clients.
Combien de mètres carrés
On a 700 mètres carrés au sol. Et puis,
On y était, rappelle-toi.
Très sympa, en plus. Tu rentres là-dedans, tu as l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba. Tu vois tellement, il y a de belles choses qui viennent de toutes les régions d'Italie.
Il faut encore un peu de temps, mais bon, là déjà, on est bien en place.
Ça tourne là, tourne depuis septembre, ça va?
Oui, ça tourne très bien. Okay. Tous les mois, on est en progression. Donc c'était un peu dans la logique des choses, quoi. Voilà. Donc là, on est assez complet, on a une activité assez complète. Maintenant, aujourd'hui, j'ai aussi mes deux enfants, j'ai mon fils et ma fille. Donc ma fille Teresa, qui est sur les marchés de Saint-Maur, entre autres. On chapeaute pas mal de marchés sur Saint-Maur-des-Fossés. Et j'ai mon fils Angelo, qui est sur le Plessis Trévise et Maison Alfort aussi. Ils y sont aujourd'hui aussi. Et Angelo, nos compagnes respectives qui s'occupent aussi des boutiques et des marchés. Donc,
alors, en fait, les gens, quand ils vont au marché, qui voient marquer Délices d'Italie, pourront dire maintenant je connais Guglielmo, au moins, hein, j'ai entendu Guglielmo.
Oui, c'est vrai que je m'excuse auprès des fois, j'ai des clients qui m'appellent par mon prénom, mais des fois, j'ai du mal parce que je vois tellement de monde. Et puis, c'est vrai que, de toute façon, sur le milieu du marché, le monde du marché, c'est grand, mais c'est petit. Parce que.
Oui, tout le monde
connaît. Tout le monde se connaît. Ouais, et puis je suis né sur les marchés. Hein. Ouais. Vous savez, j'ai dîné avant-hier soir avec un copain qui a fait les marchés avec moi. Et il me dit, Guglielmo, t'as quel âge aujourd'hui? Je dis, j'ai pourquoi? Il dit, toi, t'as quel âge? Je dis, j'ai 70 ans. Il dit, alors tu me donnes 70 ans? Il dit, oui, parce qu'on a fait le marché du Kremlin Bicêtre, on était ensemble. Sauf que lui, il a 25 ans. Moi, j'en avais 14. Ouais, donc, c'est pour vous dire qu'on est né vraiment à 10 ans, comme moi, mon fils et ma fille. Hein, je veux dire. Ma fille de métier est infirmière, mais ils ont commencé, ils ont baigné là-dedans et ils ont continué là-dedans. Je n'ai pas insisté pour qu'ils continuent, mais bon, les choses se font,
ils aiment ça, puis se font
naturellement. Bon, après, donc c'est une suite. Les Délices d'Italie, c'est un groupe. J'ai mes neveux, j'ai pu installer mes frères, mes neveux, nièces. Voilà. On a pu placer pas mal de...
Tout le clan Colosimo, quoi.
Le clan
des Siciliens, c'est le clan des Calabres. Voilà.
Et on a conclu avec Italian Gusto, qui fait partie de notre groupe aussi, Italian Gusto sur Rungis. Voilà.
Merci à toi. Merci. On va faire une pause musicale et après on viendra à ton ami, à vos amis ensemble, hein, puisque vous connaissez depuis longtemps. Et là, c'est Pausini, tu as demandé Pausini, Incancellabile, qui a chanté à Paris en 2005. C'est un live.
Et elle a fait l'ouverture des Jeux.
Stesso senza te, se ti saprei dimenticare, ça c'est pour mon père. Passa un attimo e tu sei tutto quello che vorrei, incancellabile oramai. Sembrava un'altra storia che il tempo porta via con sé.
Guardo il cielo.
occhi che sono uguali ai tuoi. Incancellabile.
Alors, nous sommes avec Guglielmo Colosimo, Jean-Raphaël Essès et Valérie Massé. Comment vous vous êtes connus ?
Alors moi, d'abord sur les marchés, oui. avec son fils Angelo. Et je lui ai parlé du monument, parce que je m'approvisionnais chez lui hein, tous les samedis, et mercredis d'ailleurs. Et du coup, j'ai parlé du monument. Il m'a dit bah, ça m'a intéressé mon père, et effectivement, ça l'a intéressé. Et je l'ai présenté après à Jean-Raphaël.
Alors, moi, je prends la suite, parce que... On le contacte et il nous dit venez voir justement sa fameuse cuisine qu'il nous a,
ah oui,
qu'il a parlé tout à l'heure. Donc on prend rendez-vous, on va chez lui, on est peut-être 7-8, tu vois. Et dans la discussion, je me rends compte qu'il est, c'est un fan, mais de la Calabre, en plus de l'Italie, tu vois. Et donc j'avais moi organisé un événement au château à la Cuamerie. On avait fait un concert avec deux grands musiciens. Et j'avais eu un sponsor et j'avais plus de nouvelles. Donc je lui ai dit, Guglielmo, tu connais pas une grosse boîte qui pourrait sponsoriser notre prochain événement, c'est la Befane. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Il dit, je veux faire une Befane, mais calabraise. Bah, déjà, le mot, c'était le mot qu'il fallait, tu sais, quand t'es vendeur, tu savais que ça allait le taper. Et il me dit, mais vous êtes combien ? Je dis, pas 100, 120, on va être. Il dit, cherche pas, je vais te le faire. Et depuis, on se quitte plus parce qu'il fait tous nos événements. C'est ça qui est bien. Et c'est le fameux grand buffet de l'inauguration. Mmh. Un buffet gigantesque.
Ouais, c'était énorme.
Énorme. Et tout le monde est allé taper dedans. Mais
C'était la couille.
Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes là ? Puisque finalement, le monument, il a été inauguré. Mmh. On a fait toute la fête. On a mangé, on a bu. Donc, c'est fini maintenant.
Ouais,
il y a
presque,
encore des choses qui se
parce
passent.
Parce que ceux qui étaient à l'inauguration ont dû voir qu'il y avait des drones, il y avait des... Des Asiatiques qui tournaient avec des caméras. D'ailleurs, même moi, j'ai été...
Parce qu'ils voulaient peut-être prendre l'idée, non ?
En fait, un de nos mécènes, Patrick Corda, m'a demandé, mais ça te dit de faire un film ? Je lui ai dit, j'ai pas le temps, là. Je suis sur autre chose. Il me dit, je m'occupe de tout. Donc, pendant un an, ils ont bossé là-dessus. J'avais donné accès à la base de données sur les photos. Eux, ils avaient tourné. Et ils ont monté un film qui sortira donc le 19. Sur la genèse du projet, donc du premier jour où j'ai rencontré le sculpteur Louis Molinari, jusqu'au 10 janvier 2025, où on a fait l'inauguration. Voilà, c'est tout retracé. En plus, il y a de belles images et il y a quelques interviews qui sont sympathiques.
Mais ça, quand est-ce qu'on pourra voir ce
19, le 19, là, à 20h.
Donne-nous un peu toutes les coordonnées.
Donc le 18, on fait une avant-première privée. Le 19, le 19 à 20h, à Nogent-sur-Marne, au Royal Palace, c'est pour le public, c'est 5 euros l'entrée. Et le 8 mars, en matinée, à 11h, pareil, au public, 5 euros.
Oui, parce que... En fait, il y a eu l'inauguration et puis après, il y a eu un petit peu de soucis parce qu'il y a eu des choses qui ont été mises devant, des barrières,
oui.
etc. Donc les gens appelaient et disaient, mais on peut y aller, on peut...
Maintenant, c'est fini, c'est bon.
Donc expliquez-nous un peu où on en est avec tout ça.
Pas de problème.
Alors le maire voulait mettre... en fait, le maire. Le nombre de mécènes et de donateurs n'ont pas arrêté de dire, il fallait protéger. Donc le maire, quand on lui a offert le monument à la ville... Le lendemain, il a tout barricadé, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait les graffitis, que les gens viennent piquer l'acier, l'inox. Aujourd'hui, c'est recherché. Et donc, et éviter aussi le stationnement, parce qu'il y a comme des bancs, pour éviter que les gens viennent chiller juste là-devant. Et puis, c'est resté longtemps, parce qu'il a eu plusieurs propositions, il nous a faites de barrières. Sauf que les barrières, ça passait de la barrière en verre, en acier. Enfin, on a tout vu jusqu'au jour où on lui a dit ben, y a une visite des officiels d'Italie qui viennent, il faudrait qu'ils aient accès au mur, au monument. Donc il a enlevé les barrières et depuis, donc, c'était je crois en novembre l'année dernière, et donc c'est ouvert au public et les gens viennent. Beaucoup de gens qui vont en visite à Paris aujourd'hui font un pèlerinage à Nogent pour aller voir le monument.
Ouais.
Incroyable.
Donc,
ouais.
On a des appels en disant oui, on vient, est-ce qu'on peut passer ? Ben, oui, allez-y, maintenant vous pouvez y aller. on leur redit où sont à peu près leurs feuilles et puis ils essayent de les chercher.
Donc il y a des associations, c'était la semaine dernière.
De Montmorency.
De Montmorency sont venus, il y a une trentaine de personnes qui sont arrivées là. Et donc ils cherchent les feuilles. Le problème c'est que, j'ai demandé au maire, mais je ne sais pas s'il le fera, c'est que les gens ne vont pas sur le site internet pour chercher les feuilles. Mais ils arrivent et ils pensent qu'ils vont trouver leurs feuilles dans les 2000 feuilles qui sont là.
Oui, c'est un peu compliqué. Il faut regarder d'abord sur Internet.
Non, mais ils ont eu leur numéro. Hein, ils ont eu leur numéro de feuille, l'arbre. Ont...
Bah, alors déjà, il faut bien savoir l'arbre, hein, parce qu'il y en a 4. Hein.
Et oui, mais tout est expliqué sur dans la rubrique monuments sur le site Internet. Il y a 4 arbres. Chaque arbre a 4 bras. Chaque bras a 5 ou 6 branches. Et chaque branche a des rameaux. Donc, et on a donc une adresse qui est composée de 5 chiffres. Et donc, à partir de là, déjà, il faut avoir le bon arbre. Et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est très compliqué. Il y en a qui ont de la chance.
Mais comment tu peux savoir l'arbre, en fait
Au sol, il y a une plaque avec le nom d'une famille. C'est les 4 familles des grands mécènes, des très grands mécènes. Et il y a un petit chiffre qui indique le numéro de l'arbre. Donc, en sachant...
Non, attends, je ne comprends pas. Parce que si moi, je vais sur Internet,
oui.
Je ne connais pas, je ne sais pas où il est mon nom.
Ton nom, comment donc tu vas à rubrique monument et comment retrouver ses feuilles. Et il y a toute l'explication... La numérotation des feuilles, les photos, il y a en fait toute l'explication.
Il faut qu'ils mettent le nom, toujours. Vous mettez votre nom et puis vous allez...
Aller sur le site, retrouver vos feuilles. Il y a toutes les feuilles, il y a les 2000, parce qu'il y a les 2000 feuilles qui ont été matérialisées en inox, mais il y a aussi près de 150 feuilles virtuelles qui ont été rajoutées. Donc, il faut taper le nom, tu tapes Gauthier, et te donne une adresse de 5 chiffres, et c'est l'adresse de ta feuille.
Ah, moi, si je mets Gauthier, il n'y aura rien, puisque c'est Cappuccino.
Ah, je ne suis pas sûr, il me semble avoir eu ton nom.
Je pense aussi.
Il me semble que j'ai vu ton nom.
Voilà. Donc, là, on a compris, donc on peut aller le visiter. Pour l'instant, il n'y a pas de barrière, c'est tant mieux.
Mais maintenant, il est libre, comme ça. Ça va rester comme ça, parce que je pense que dans un mois, il y aura un nouveau maire. Alors, après, on verra.
Ouais. Oui. Alors, maintenant, donc, on a parlé du monument. Mais est-ce qu'il y a d'autres événements par rapport au cercle Leonardo da Vinci qui vont venir? Il y a le film qui a été fait. Est-ce que vous avez
littéraire,
dans les mois et peut-être même les années à venir, que va devenir cette association?
Pour l'instant, elle continue, surtout culturelle. Hein, donc on fait des choses avec aussi des pièces de théâtre, des choses comme ça. Mais on a fait une conférence, là je voulais en parler, sur les militaires italiens internés. Avec Cyril Delaunay Artifoni, qui avait écrit un livre qui s'appelle Militaire italien interné, de l'oubli à la reconnaissance, parce que en fait, très peu de personnes savent que 800 000 personnes, enfin italiens, ont été arrêtés au mois de septembre 1943, un peu partout dans l'Europe, et 650 000 ont été internés, mais ont été traités comme des esclaves, en fait, moins bien que les autres, parce que c'était des traîtres par rapport aux Allemands. Et du coup, ils ont été vraiment traités comme des chiens.
Excuse-moi, mais il faut dire quand même qu'ils ont été arrêtés parce que l'Italie, le roi a fait arrêter Mussolini.
Oui.
Du coup, les Italiens, les Allemands leur ont proposé le choix, ou tu continues à te battre avec nous, ou tu files dans un camp d'internement. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je le pardonne mes amis. Il me racontait ça, mais je ne comprenais pas. Et là, j'ai bien compris qu'en fait, les 800 000 Italiens, ils ont refusé de se battre avec les Allemands, de continuer avec les Allemands. Et plutôt que de rejoindre les Alliés, ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient arrêtés par les Allemands sur place.
Mais comment ça se fait qu'on ne connaît pas cette histoire?
C'est ça le truc.
Cyril, du coup, je lui ai demandé, quand j'ai reçu son livre la première fois, ça m'a parlé parce que justement, mon mari me parlait justement de son grand-père qui avait été déporté. Alors, je ne comprenais pas. Quand il me racontait ça, je ne comprenais pas. Et quand j'ai reçu ce livre, je me suis dit, c'est l'histoire du grand-père de mon mari. Et j'ai demandé donc à Cyril de faire une conférence sur le sujet, dédicace. Donc, il dédicace son livre en même temps. Et elle était super, sa conférence. Vraiment, c'était la première fois qu'il en faisait une. Et il était brillant. Et ça nous a permis de découvrir donc cette histoire. Et d'ailleurs, il y a un livre qu'il a fait qui n'est pas très long. Je conseille de l'acheter. C'est vraiment un livre historique, mais en même temps avec des images. Et on comprend mieux tout ce qu'ils ont vécu, en fait. Hein. Ça a été l'horreur. Ils sont revenus souvent à pied après la guerre, les camps étaient libérés. Ils sont revenus à pied en général et ils avaient perdu 30-35 kilos quand ils n'étaient pas morts.
Ils ont fini en fait, le père de mon ami, il a fini à Dachau. Oh, donc ils finissaient dans les camps d'extermination, certains.
connais pas.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Faire une émission.
Donc, je montre l'image. Ouais. Hein, c'est le livre. Et donc, je vais faire une conférence aussi avec Italia Morbihan le 7 juin, ou le 6 ou 7 juin, je ne sais plus, à Lorient. Là-bas, je suis sûre d'avoir un gros public parce que l'association fait 300 personnes. Et en fait, ils se déplacent vraiment donc, quand on fait des conférences. Et là, il va faire donc une conférence sur le sujet.
Incroyable, cette histoire. Ouais. C'est ça qui est bien aussi l'avantage d'avoir des connexions comme ça. Voilà, on découvre des choses.
Le prix littéraire.
Moi, je découvre des choses. Mmh. Là,
oui, c'est
on
grâce
découvre
au prix littéraire.
C'est grâce au prix littéraire. Hein.
Voilà, toutes ouais. ces choses-là. Mmh. C'est ça l'interaction. Je crois d'ailleurs que vous avez fait quelque chose qui est très sympa. Vous avez mis en place une lettre d'information.
Oui.
Explique-nous un peu.
Alors, je me suis dit, comme nous, on fait un peu moins de choses, parce qu'on a, pendant 6 ans, on s'est un petit peu consacré au monument, et à beaucoup d'activités pour faire ouais. connaître le monument, justement. Donc, on a dit, maintenant, on va se reposer un petit peu sur ce que font aussi les autres, et proposer ce que font les autres à nos adhérents, à nos membres. On a quand même 3000 et quelques membres de connexion, en fait. Et en fait, je vais faire une petite lettre tous les mois en proposant ce que font les autres et nous. En même temps, évidemment. Donc, je parle de l'ASPAPI, d'Amici d'Italia, enfin, des associations avec qui on est partenaire. D'ailleurs, s'il y a d'autres associations.
Cappuccino.
Voilà.
Et donc, je parle de ce que font les autres. Là, j'ai proposé un concert à Saint-Germain-en-Laye, parce que nous, on est dans l'Est. Nos adhérents, beaucoup dans l'Est, mais il y en a partout, en fait, en France, des adhérents. Donc, j'ai aussi proposé ce que font les autres.
Comment on s'inscrit à ta lettre d'information?
Ah, bah, ils contactent le cercle, hein.
À partir du moment où tu es inscrit au cercle,
ouais.
on a plus de 4000 contacts.
Ouais.
Et ils reçoivent.
Et ben, il faut s'inscrire sur le site. Hein. Vous devenir membre du site, en fait. Hein. Il y a marqué connexion. Ils donnent leur adresse et tout. Ils s'inscrivent sur le site avec leur adresse, email.
Donc après, il y a les événements récurrents. Hein. Tu connais quand même notre remise des trophées, puisque maintenant, ce sont les Léonards tous les ans. Et donc, on alterne entre l'ambassade, j'allais dire.
Avec Alberto Toscano.
Alberto Toscano, donc le président, et on alterne entre l'Assemblée et le Sénat, puisque ce sont avec les parlementaires, donc sénateurs ou députés, membres du groupe d'amitié France-Italie, dont on avait, c'était en 2024, hein, j'ai envoyé cette photo parce qu'elle est assez marrante, c'est qu'avec Alberto, on remet des prix et on a deux députés qui sont devenus ministres dans le même gouvernement, c'est en même temps.
Ah, donc, il faut qu'ils viennent là, ça porte bonheur.
Ouais, c'est exactement ce que je leur ai dit. Je dis, les mecs, ça vous porte bonheur de venir à mes soirées.
Juste un truc, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas trop compris. Souvent, on entend des voix. Tant pis si on revient un peu en arrière. Le monument, il a été financé comment? Par qui?
Alors, la financière est là.
C'est moi la financière.
Dites-nous.
Donc, on va dire que 70% par des grands mécènes, mécènes et grands mécènes, d'origine italienne, des enfants d'Italiens, en fait, qui ont versé vraiment entre 50 000, 60 000 et puis 1 000 euros. Et puis, après, c'est des donateurs qui ont financé avec leurs feuilles. Ils ont acheté, donné 100 euros pour une feuille ou plus, des fois. Et ça a permis de faire les arbres. Mais l'ensemble du monument est construit par, financé par les donateurs, avec 3% seulement par le Val-de-Marne.
Voilà, c'est ça. Le public, combien l'argent public, combien?
3%.
3%. Ouais. Il vient de...
Du Val-de-Marne.
30 000.
Même pas, 25 000.
Sur
25 000.
Attends, ah oui,
il y a 25
oui,
000
ça marche,
le département, puisque oui. Olivier Capitagno, comme son nom l'indique, il n'est pas allemand. Hein. Et puis la ville de Saint-Maur. Si, ils sont marqués sur, sur
donc,
la stèle.
Donc 25 000 sur un total de combien le monument il a coûté?
Le monument, il y a le prix qui a coûté, mais il y a aussi tout ce qui a été fait par la ville. C'est-à-dire qu'en comptant ce qu'a fait la ville autour, aménagement autour, on dépasse le million d'euros.
Donc 25 000, c'est l'argent public.
C'est rien.
Ouais.
C'est 1%, quoi. Je sais même
3%,
pas.
3%.
3%, ça fait
3%.
Alors c'est bientôt la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore pour terminer avec Colosimo? Merci d'être venu.
Merci à vous.
Merci à vous. Ah, il nous reste encore une minute. Colosimo, tu voulais rajouter peut-être ça?
Si, Guglielmo.
Guglielmo.
Mais non, c'est un frère. Hein, il est tous les événements qu'on fait, il me dit Raph, tu t'appelles personne d'autre. Puis non, Guglielmo, les anciens. Parce qu'il a fait partie des premiers qui ont cru. Il y en a beaucoup qui n'y croyaient pas.
On a fait le tri, quoi. On a fait un peu le tri des fois.
Il y a plein de gens, encore l'autre jour. La semaine dernière, dans la trentaine de personnes de Montmorency, j'en ai rencontré qui m'ont dit « Ouais, mais Ouais, je l'avais, j'ai pas pensé à faire la suite. Et tout. Comment on peut faire maintenant pour avoir une feuille?
Si, j'y ont cru, mais après.
Ouais, ils ont cru, il faut que c'était,
que c'était fini.
Il y a peut-être l'espoir qu'un jour, peut-être les feuilles.
Alors, il y a des associations. D'ailleurs, j'ai reçu un message cette semaine d'une association qui veulent effectivement le refaire un cinquième arbre. Donc, toutes les feuilles virtuelles qui ont été créées, on leur donnera pour qu'ils fassent le début de leur. Mais ça, c'est eux qui vont faire le job. Moi, ouais.
Merci à vous trois. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Et ça a été très sympa. Et voilà, Délices d'Italie, on le trouve partout, sur tous les marchés.
Et aussi sur le plateau, là, avec.
Oui, on a déjà plein de douceur.
De douceur amenée par Guglielmo.
Merci à vous tous.
Ebbene, Cappuccino termina qui. Tutta l'equipe vi augura una buona domenica, una buona settimana e vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre che voi lo vogliate.
Ciao, baci.